Vous êtes sur RTL.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Ouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche, l'émission avec ceux qui font l'actualité de la semaine. Je suis très heureux de vous retrouver et je vous souhaite une très belle année 2023, pleine de bonheur, de joie et surtout, bien évidemment, en ces temps troubles, la santé. On va se régaler sur RTL cette saison, vivre des émotions, apprendre des choses et toujours au cœur de l'actualité. Vous le savez, chaque jour sur l'application RTL, vous avez rendez-vous avec Focus, le podcast quotidien de la rédaction où Marion Calais développe un titre de l'actualité. Chaque dimanche, on se retrouve avec les personnalités qui font l'actu de la semaine.
Focus dimanche,
Mohamed Bouafsi.
Plus de 250 millions de Chinois ont été infectés par le Covid ces dernières semaines. Les hôpitaux sont débordés. Vous allez découvrir le témoignage édifiant d'une médecin française à Pékin et comment la France va être impactée par cette flambée des cas. Brigitte Autran, la présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, nous répond. 33 000 boulangers sont en difficulté. Hausse des matières premières, hausse du prix de l'énergie. Corinne Butard est boulangère. Elle a dû licencier des salariés. Elle témoigne sur RTL. En 2022, en France, des enfants dorment dans la rue. À Paris, un collectif de parents d'élèves a décidé de trouver un toit à ces familles sans domicile fixe. Fatima est la maman de Lilou. Pendant plusieurs semaines, elle a dormi au milieu des drogués près de la gare du Nord. À Paris, elle se confie dans Focus Dimanche. L'émission qui va être mon associé sur M6 est devenue un phénomène, un jury qui vient en aide à des investisseurs avec des projets fous, une émission qui a changé la vie de Ashley Taïeb, une entrepreneur. Ashley sera avec nous, tout comme Anthony Bourbon, l'un des membres du jury. La situation inquiète les autorités. La Chine, touchée par une nouvelle déferlante des cas de Covid, plus de 200 millions de Chinois contaminés par le Covid-19. Cela après avoir abandonné la nouvelle politique du zéro Covid début décembre. Les contaminations sont de retour à la hausse. Elles explosent. Le docteur Sonia Jugard-Bureau, médecin français qui travaille à l'hôpital international de Pékin, témoigne de son quotidien dans Focus Dimanche. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Sonia, on va vous donner la parole dans quelques secondes, mais on est très heureux de recevoir Brigitte Autran, la présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Brigitte Autran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui la directrice de toute l'anticipation de la gestion du Covid en France et je voulais vous recevoir aujourd'hui pour évoquer la situation qui va arriver en France dans quelques semaines. Sonia Jugard-Bureau, vous êtes médecin français, vous êtes à l'hôpital international de Pékin. Vous la voyez tous les jours, cette situation incroyable des hôpitaux chinois, de l'impréparation du pouvoir chinois qui est débordé.
Effectivement, les hôpitaux chinois sont complètement débordés. Le gouvernement, surtout, on a plus l'impression qu'ils ont lâché l'affaire, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'après avoir passé 3 ans dans un contrôle permanent, démesuré, excessif, comme il a pu être relaté, on est passé du jour au lendemain à une situation où c'est plus leur problème. On dit aux citoyens, vous vous débrouillez, vous faites dépister, vous faites soigner comme vous pouvez, et les hôpitaux, pareil, vous vous débrouillez avec les moyens que vous avez. Nous, dans notre hôpital, nous avons appris en pleine nuit, il était à peine minuit, que tout d'un coup, il n'y avait plus de système de fever clinic comme ça a été pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, moi, je n'avais pas le droit de voir mes patients qui avaient de la fièvre, qui avaient de la toux, qui avaient de nez qui coule, parce qu'ils devaient être vus que dans des centres spécialisés pour être traqués, pour être isolés, pour être mis en quarantaine. Et du jour au lendemain, on dit non, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous voyez qui vous voulez. Donc vous imaginez bien qu'en une nuit, les hôpitaux n'ont pas eu le temps de se préparer.
Sonia Jugard-Bureau, c'est important de vous avoir aujourd'hui parce que vous travaillez, vous vivez à Pékin, vous la voyez cette situation. Nous sommes en France, on voit ces vidéos sur les réseaux sociaux, à l'antenne, à la télévision, des Chinois qui se battent pour des réanimateurs, pour de l'oxygène. C'est ça le quotidien des hôpitaux à Pékin, à Beijing, en Chine?
Pas tout à fait, j'ai envie de dire. Pékin, Shanghai, on est quand même les grosses villes. On reste assez préservé. Le reste des provinces, c'est effectivement le cas. Ils ont très peu de moyens, voire pas de moyens. Et on voit une population, effectivement, qui est complètement démunie, qui est aussi sidérée, parce qu'ils n'ont pas été préparé à ça. On a passé 3 ans à leur faire peur avec le Covid. Au bout d'un an, 18 mois, on voit bien que la peur a changé de visage. C'est-à-dire que finalement, la population s'est mise à avoir peur des conséquences du Covid, non pas du Covid.
Sonia Jugard-Bureau, vous m'avez dit, dès que la politique zéro Covid de Xi Jinping, le dirigeant chinois, a été terminée, tout de suite, vous avez vu arriver dans votre hôpital des gens vous dire on a le Covid, on a des symptômes, ouais. Et avant, on ne voulait ouais. pas le dire.
C'est exactement ça. D'une journée à l'autre, j'ai eu, le 8 décembre, je n'avais vu aucun patient Covid de ma vie. Et à partir du 9 décembre, j'en voyais 20, 30 par jour. En fait, on n'est pas passé du tout au rien comme ça en une journée. Ce qui se passait, c'est que les gens avaient peur de donner leurs symptômes, de dire qu'ils avaient de la fièvre, de dire qu'ils avaient de la toux. Donc en fait, ils restaient cloîtrés chez eux, ils s'auto-isolaient.
Et vous m'avez raconté aussi, hors antenne, des gens qui font plusieurs centaines de kilomètres, 300, 400 kilomètres pour venir se soigner dans votre hôpital et mourir quasiment devant vous.
C'est terrible. Enfin, il y a une première vague où on voyait des familles en fait se déplacer vers notre hôpital parce que ils cherchaient à avoir accès au seul médicament qui a quand même été autorisé, qui est le Paxlovid, et qui venaient là désespérés à la recherche d'aide. Et puis ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, effectivement, on a vu des familles arriver avec leurs personnes âgées, enfin qui essayaient de circuler d'hôpital en hôpital, où ils voyaient qu'il y avait des heures et des heures de queue, donc ils essayaient de venir là où on pouvait les accueillir.
Une dernière question avant de donner la parole à Brigitte Autran, la patronne du COVARS. Sonia Jugard-Bureau, 250 millions de Chinois atteints en 18 jours par le Covid depuis 3 semaines. Pour bien se rendre compte de la situation, depuis le 25 décembre, les autorités chinoises ne communiquent plus sur les chiffres des malades du Covid-19 et les centres funéraires, les crématoriums, les morgues sont débordés. Pour éviter les files d'attente, un système d'appel a été mis en place. Chaque mort se voit attribuer un numéro, plus de nom, plus de prénom, un numéro seulement.
Ouais. On vit quand même dans un pays qui n'est pas une démocratie, donc moi, les informations, je les ai par vous, les médias étrangers, je les ai pas via les médias chinois. Dans les médias chinois, on n'en parle absolument pas de tout ça. Ouais. Les médias chinois nous montrent que tout va bien, que le pays s'ouvre, que tout se passe bien, et dans les hôpitaux, on vit ces scènes de chaos. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Je l'ai pas vu de mes yeux, je mentirais de dire que je l'ai vu, c'est pas vrai, parce que j'y ai pas accès, mais je vois pas comment ils peuvent faire autrement, vu qu'ils ont effectivement rien préparé derrière. Ça entretient ce sentiment de frustration et de colère que beaucoup de gens peuvent avoir, de se dire qu'on a passé 3 ans pour rien, finalement. Mmh. C'est-à-dire que pour se mettre en politique zéro Covid, pour ne pas être prêt du tout au final. Moi, en tant qu'étrangère habitant en Chine, je suis très triste. Je suis très triste de voir cette population qui ne mérite absolument pas ça.
Brigitte Autran, vous êtes la présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Votre parole est assez rare. C'est vous qui traitez toutes ces questions de vagues, d'épidémie, de la pandémie du Covid-19. Quand on parle du Covid, parfois en France, on entend certains, notamment sur les réseaux sociaux, qui nous disent « vous agitez les peurs ». La peur, c'est celle que Sonia Jugard-Bureau voit tous les jours dans les yeux des patients chinois. La peur, c'est ce qui se passe actuellement en Chine.
Oui, tout à fait. Nous étions au départ exactement dans la même situation que la Chine, avec une politique zéro Covid lors du premier confinement. Et puis, notre pays, comme la plupart des pays occidentaux, ont décidé que cette politique zéro Covid n'avait pas de sens et qu'il fallait aller graduellement vers l'acquisition d'une immunité de la population. Et malheureusement, l'exemple de la Chine, avec son impréparation et la mauvaise qualité, la faible qualité de la vaccination, et je pense que ma collègue ira dans le même sens, est le contre-exemple.
Brigitte Autran, on est à plus de 80% d'immunité collective, c'est ça en France ?
Oui, alors on a même eu 90% de la population éligible à la vaccination qui a été vaccinée avec la première série de vaccinations. Il faut aujourd'hui, face aux variants, que la population fasse des rappels, la population qui est la plus fragile et la plus susceptible de faire des formes graves. Mmh. On est aujourd'hui on atteint péniblement les 40-50% de population éligible vaccinée. Ici, si nous ne vivons pas cette terreur, c'est que nous avons un certain niveau d'immunité que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre.
Brigitte Autran, écoutant François Braun, le ministre de la Santé, c'était lundi dernier à l'occasion des premiers tests aléatoires des passagers venant de Chine.
Ce dispositif, il permet, un, de vérifier que les gens, avant de monter dans l'avion, vont avoir eu un test disant qu'ils sont négatifs pour pouvoir monter dans l'avion. Le port du masque dans l'avion, ça a été dit. Et bien sûr, ce contrôle à l'arrivée, qui n'est pas un contrôle qui empêcherait des citoyens de rentrer sur notre territoire, mais qui est un contrôle plus scientifique, qui va nous permettre de suivre de façon extrêmement précise les différents variants. Ce sont essentiellement des variants Omicron qu'il y a actuellement en Chine. Les Italiens ont testé il y a deux jours l'ensemble d'un avion et on peut dire que les variants identifiés sont des variants qui pour l'instant sont connus sur le sol français et que nous croisons entre guillemets tous les jours.
Ce que dit le ministre de la Santé François Braun, Brigitte Autran, et c'est ce que vous répétez depuis plusieurs semaines, c'est que le virus, il ne s'arrête pas à nos frontières.
Il n'est pas question de bloquer le virus, il n'est pas question de le retarder. Nous sommes encore en France en phase épidémique. Donc nous avons encore beaucoup de virus qui circulent. Ce ne sont pas les quelques avions qui vont arriver de Chine qui vont changer la dynamique de notre épidémie en France. La mesure qui a été prise, qui était de dire, eh bien quand même, seuls ceux qui ne sont pas infectés viennent en France, est une mesure raisonnable, hein. Donc cette mesure de test à l'entrée dans l'avion est tout à fait compatible avec nos propres mesures intérieures de protection. L'autre mesure est que nous avons préconisé est une mesure à but totalement scientifique. En effet, on a vu que l'ampleur de l'épidémie en Chine est telle que les autorités et les laboratoires se sont dépassés, ne peuvent plus surveiller ni le nombre d'infections, ni le type d'infection, et en particulier, on n'a plus d'informations sur le type de variant qui circule en Chine. Et on sait que plus il y a de virus, a priori, plus il y a de chances qu'il émerge un nouveau variant. D'où la relative inquiétude, qui n'était pas une inquiétude majeure, mais une relative inquiétude. A priori, les informations que l'on a, notamment de l'Italie, montrent que, heureusement, il n'y a pas de nouveau variant inquiétant qui soit en circulation, mais il est raisonnable de faire cette surveillance pendant probablement le mois qui vient. Et cette surveillance, en fait, c'est pas du tout une surveillance policière, hein. C'est vraiment, comme l'a dit le ministre, une surveillance scientifique pour savoir ce qui rentre chez nous. Et nous mettrons en commun toutes les informations au niveau européen et au niveau mondial pour savoir donc ce qui se passe en Chine. En fait, on fait cela parce que la Chine n'est plus en mesure de faire cette surveillance.
C'est très important ce que vous dites, Brigitte Autran. Vous êtes la présidente du COVARS. Ma question, elle est très simple. Il n'y a pas de nouveau variant qui vient de Chine. Pour l'instant, le vaccin que l'on a, Moderna, Pfizer, aujourd'hui répond aux variants que l'on voit en Chine.
Absolument. Les vaccins que nous avons nous protègent contre les formes graves des variants qui circulent en France et apparemment ceux qui circulent en Chine. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Les vaccins que nous préconisons, et en particulier les rappels avec les vaccins bivalents, permettent de protéger contre ces virus.
Deux dernières questions encore, Brigitte Autran. La situation des rappels de la vaccination chez les personnes qui ont plus de 60 ans, c'est pas assez.
Il y a eu presque 5 millions de vaccinations depuis le début du mois d'octobre, ce qui est pas beaucoup, hein, mais bon, qui est mieux que rien. 5 millions, ça veut dire un gros tiers de la population éligible, considérant que certaines personnes avaient été infectées récemment et n'avaient pas absolument besoin d'être réimmunisées. Mais on est probablement entre 30 et 50%, et c'est vrai que dans les EHPAD, il y a eu un retard particulier à la réalisation de ces rappels. Et il faut vraiment que les personnes très âgées puissent bénéficier le plus rapidement possible du rappel. Il faut également que toutes les personnes qui vivent au contact de personnes fragiles, qu'elles soient très âgées ou qu'elles soient atteintes de différents facteurs de risque, se vaccinent. Donc l'entourage doit se vacciner et dans l'entourage, il y a les soignants. Donc c'est toute une population, on estime que cette population représente environ 18 millions de personnes à vacciner.
Et un dernier mot, Brigitte Autran, avec vous aujourd'hui sur RTL dans Focus Dimanche, sur la situation du paracétamol. Vous l'avez dit, les produits actifs du paracétamol sont fabriqués en Chine. La Chine qui vit une explosion des cas de Covid. On va connaître une situation difficile, ou en tout cas un peu plus difficile que prévu sur le paracétamol, sur le doliprane, etc. Va falloir être raisonnable, c'est ce que vous répétez, Brigitte Autran.
Oui, alors c'est tout à fait vrai. Il va y avoir certainement une nouvelle vague de pénurie du paracétamol. La petite note positive, c'est que la terrible épidémie de bronchiolite qui a sévi avant Noël chez les petits-enfants est en train de diminuer. Donc le besoin pédiatrique sera un peu moins important qu'il n'était avant Noël. mais nous sommes encore dans les épidémies hivernales, donc nous avons encore besoin du paracétamol, et clairement nous n'avons pas encore obtenu de l'autonomie sanitaire en matière de production de paracétamol. C'est prévu, mais malheureusement pas avant probablement 1 ou 2 ans.
Merci beaucoup Brigitte Autran, vous êtes la présidente du COVARS. Merci beaucoup Sonia Jugard-Bureau, vous êtes médecin à Pékin dans la clinique internationale. Votre témoignage était édifiant. Merci à vous deux et passez un excellent dimanche. C'est le retour de l'émission Événement. Qui veut être mon associé sur M6? C'est devenu un phénomène. 4 membres d'un jury qui peuvent changer la vie d'investisseur. L'un des jurés, Anthony Bourbon, est passé de la rue à millionnaire. Il sera avec nous en studio dans quelques secondes avec Ashley Taïeb. Cette entrepreneuse a participé à l'émission l'année dernière. On lui demandera ce qui a changé dans son quotidien. C'est dans quelques secondes sur RTL.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
L'émission Qui veut être mon associé a fait son retour sur M6 en partenariat avec RTL mercredi dernier pour sa 3e saison. Qui veut être mon associé, c'est le programme qui permet à de nombreux entrepreneurs de monter leurs projets grâce aux investisseurs de l'émission. Le concept est simple mais tellement fort. Des porteurs de projets viennent présenter leur concept face à un panel d'investisseurs dans l'espoir de repartir avec l'argent nécessaire pour mener à bien leur idée. Ça cartonne, c'est sur M6. Et l'une des stars du programme, l'un des membres du jury, c'est Anthony Bourbon, le patron de Feed, l'une des plus grandes entreprises françaises de l'agroalimentaire. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Anthony, on est aussi avec Ashley Taïeb. Elle a participé à Qui va être mon associé l'année dernière. C'est la patronne de MyID qu'on présentera dans quelques secondes. Bonjour Ashley.
Bonjour.
Ashley, on reviendra dans quelques secondes sur MyID et votre participation l'année dernière. Mais Anthony, mercredi dernier, c'était le retour de Qui va être mon associé. Quel succès pour cette émission. Les gens sont vraiment devenus addicts et vous regardent chaque jour investir dans de nouveaux projets.
Oui, c'est intéressant de voir qu'il y a une véritable traction autour de l'entrepreneuriat et que les Français se retrouvent dans les entrepreneurs, que ça les inspire, que ça leur donne envie de changer de vie, de forcer leur destin. Donc je pense que là, c'est vraiment de la télévision qui apporte plus que du divertissement, mais aussi de l'information. Ça explique comment on peut réussir, mais aussi comment on va être confronté à des échecs, à des difficultés. Donc c'est la réalité du business qui vient dans la télé des Français.
Alors Anthony, on va vous présenter. Vous êtes le membre du jury parfait pour cette émission parce que vous avez connu des embûches dans votre carrière d'entrepreneur, d'investisseur vous aussi. Aujourd'hui membre du jury de Qui va être mon associé, mais vous auriez pu faire face il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 15 ans à des investisseurs comme Ashley Taïeb.
Ouais, je l'ai même fait au début quand j'ai lancé mes projets, alors pas devant des caméras, mais tous les entrepreneurs, ou en tout cas la plupart, ont levé des fonds ces dernières années pour réussir et faire de belles réussites. Et je sais la pression que c'est de devoir pitcher son projet, raconter pourquoi les autres devraient y croire. Et on prend énormément de refus, c'est-à-dire qu'on va prendre 50 noms pour un oui. Et effectivement, j'ai eu un parcours assez compliqué puisque je viens moi-même d'une famille pauvre, que mes parents étaient mon père contrôleur de train, ma mère vendeuse, j'étais à la rue quand j'avais 17-18 ans. Et donc j'ai vraiment galéré avant de réussir. Et c'est un message d'espoir que je veux envoyer en fait aux Français qui nous écoutent, quelle que soit leur situation à l'heure actuelle. Il faut pas baisser les bras, c'est parfois très difficile, parfois très injuste, mais avec du travail, de l'ambition, de la résilience, de la passion, je pense que n'importe qui peut faire de belles choses avec de la méthode et de l'envie.
Comment vous avez construit votre succès? Comment on passe de la rue à connaître une réussite assez incroyable, notamment dans l'entrepreneuriat?
Je pense que c'est vraiment trouver ce qui vous plaît dans la vie. Le plus important, c'est de pas être obsédé par l'argent, parce que l'argent, c'est plus une conséquence qu'une finalité. Si tu veux juste devenir riche, tu vas baisser les bras parce que tu vas avoir tellement de problèmes que tu vas abandonner. Mais par contre, si tu es dans un secteur qui te passionne, que chaque matin tu te lèves et t'es content de bosser là-dedans, quelque part tu deviens bon, et en devenant bon, les gens vont te suivre, les gens vont t'écouter, tu vas embarquer, créer une émotion. Donc j'ai eu cette chance avec Feed de pouvoir générer quelque chose qui me plaisait, parce que la nutrition, j'avais été confronté quand j'étais jeune, quand j'étais dans la rue, que j'avais pas à manger. Ça m'avait choqué de me dire, on est en France, c'est quand même un pays ultra puissant, mais il y a des jeunes comme moi qui ont pas droit au RSA parce qu'ils ont pas 25 ans et qui peuvent pas bien manger, alors que j'étais bon élève, etc.
Alors pourquoi on accroche devant l'émission et pourquoi on a envie autant de soutenir ces entrepreneurs qui vous font face?
Parce qu'on s'identifie, je pense, aux entrepreneurs, et on a tous des rêves qui sont parfois inavoués, et quand on voit des personnes se lancer, on se transpose dans leur histoire, et donc on a envie de les soutenir, on a envie de les aider. Il y a une vocation vraiment humaine forte dans ce programme. On voit des parcours de vie avant de voir des business, et donc forcément les gens s'attachent, et c'est ce qui est très difficile en tant qu'investisseur. Tu dois être capable à la fois de segmenter la capacité business du projet et l'humain qui est toujours ultra sympa. C'est des gens qui sont ambitieux, donc tu as envie d'aider tout le monde. La réalité, c'est qu'en tant qu'investisseur, c'est aussi notre rôle parfois de prévenir qu'il va y avoir des difficultés parce que le business model ne tient pas pas la route parce que le marché est trop petit.
Et ce qui est très fort dans cette émission, dans Qui veut être mon associé, c'est qu'on s'attache à ces investisseurs. Je me suis attaché mercredi dernier à deux agriculteurs qui étaient venus présenter des pailles, la marque paille d'eau, réutilisable, biodégradable. Et c'est vrai que ces agriculteurs, leur présentation était tellement émouvante. On a vu certains membres du jury ont pleuré, tout simplement, parce que c'est ça le point fort de Qui va être mon associé, c'est de s'attacher à des parcours de vie qui peuvent être difficiles parfois.
Ça montre la réalité du marché, la réalité de la société. Moi, le premier, on est tous dans une tour d'ivoire, un peu à Paris. On a l'impression que le monde est dur, mais sans être confronté à sa réalité. Moi, je vivais dans la rue et je dormais sous les ponts. Et ça me fait du bien parfois de revoir la réalité du terrain. Et l'exemple de ce couple qui gagne 1000 euros par mois en travaillant vraiment de manière très intense, ça fait mal au cœur. Et c'est sûr que ça rappelle à quel point le monde est difficile. Et on le voit au quotidien, moi, avec les jeunes qui viennent de banlieue, qui sont défavorisés, qui sont sortis du système. Ça va être extrêmement compliqué pour eux de s'en sortir, mais encore une fois, il ne faut pas baisser les bras.
Alors moi, j'ai une question plus précise, Anthony, vous concernant. Vous êtes le beau gosse de l'émission, le jeune, mais je vous trouve dur parfois avec ces personnes-là. Moi, je m'attache à ces gens et vous arrivez, vous dites non, là, si tu fais comme ça, ça ne va pas marcher. Et je vois sur les réseaux sociaux, les internautes vous dire mais il est dur, Anthony, alors que c'est le plus jeune, c'est censé être le plus sympa. Comment ça se fait ?
J'essaie vraiment d'être le plus authentique et le plus vrai possible. Il y a des gens à la télé qui vont polisser leur image, qui vont essayer d'attirer en étant gentil. Moi, j'essaie d'être le plus réel. Et en fait, je considère que la crédibilité, la légitimité que j'ai eue grâce à mon parcours me permet d'être dur avec les entrepreneurs parce que je l'ai déjà vécu. En fait, quand t'es un héritier, que t'as fait les grandes écoles, que t'as eu l'argent de papa pour commencer ton projet, c'est sûr que t'as moins, on va dire, de crédibilité quand tu vas défoncer un entrepreneur. Parce qu'on va dire, attends, tu rigoles, tu dis ça, toi, à 25 ans, t'étais déjà millionnaire, t'avais rien fait. Donc moi, comme j'ai été dans le dur, je sais ce qu'ils partagent et je sais ce qu'ils sont en train de vivre. Et je le fais toujours avec le plus grand respect, c'est-à-dire que je suis dur, mais en réalité, en étant dur, je les aide. Et honnêtement, sans vouloir me jeter des fleurs, je reçois énormément de messages de la part des entrepreneurs que parfois j'ai un peu secoué. Ils me disent, est-ce que tu peux m'aider? Et donc la réalité, c'est que je préfère être dur avec les faits et tendre avec l'humain plutôt que de faire du cinéma parce qu'il y a des caméras.
Et la force de cette émission aussi, Anthony, la réussite, c'est de mettre l'entrepreneuriat, l'économie en France à 21h en prime time sur M6, regardé par des millions de téléspectateurs. Anthony, mon coup de cœur, c'était lors de la deuxième saison, c'était Ashley Taïeb qui a fondé MyID et elle est avec nous. Rebonjour Ashley.
Rebonjour.
Ashley, l'année dernière, vous avez tout explosé. Voilà, vous êtes venu avec votre sourire, avec votre authenticité. Vous nous avez présenté votre projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quelques mots ce que c'est MyID ?
Alors, MyID, en fait, c'est une société qui développe des programmes dont le but est de proposer des solutions pour apprendre aux gens à vivre mieux avec leurs pulsions addictives. On ne prône pas le sevrage. On prône vraiment une sorte d'autonomie, trouver son propre équilibre et donc on crée des programmes par rapport aux différents types d'addictions pour accompagner les gens à s'accompagner eux-mêmes dans ce processus-là.
Et Ashley, Anthony Bourbon expliquait son parcours tout à l'heure, de la rue aux grands projets, aux grands investissements. Et vous, avant de sortir votre plateforme pour aider à lutter contre les addictions, vous avez aussi connu un parcours semé d'embûches.
Tout à fait. Écoutez, c'était quelques années assez denses, assez intéressantes. Je pense que quand on a su vivre sans rien, on ressent mieux la valeur des choses. J'ai passé quelques années à Paris, voilà, à vivre dehors avec une addiction à une drogue vraiment pas rigolote. Je pense être une des exceptions qui confirme la règle de ce qui se passe en général dans ce genre de parcours-là. Et moi, j'estime que l'addiction, donc la pulsion qui vous emmène à un comportement addictif. En fait, qu'on soit addict au crack dans la rue ou qu'on soit addict à la nourriture ou au sexe ou à l'alcool, etc. En fait, ce phénomène, cette vague qui prend place à l'intérieur de nous, cette obsession dans notre tête, c'est la même qui fait que je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible. En fait, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut créer quelque chose, non pas qui va venir remplacer les solutions existantes, bien au contraire, mais quelque chose qui va être une sorte de stratégie de première ligne. Vous voyez, quelque chose qui soit fait pour l'utiliser. utilisateurs de manière à vivre avec une méthode axée solution au quotidien.
C'est ça, Anthony, la force de cette émission, c'est d'accompagner des projets. Ashley, elle est repartie avec 100 000 euros de l'émission. Au début, elle était venue pour 100 000 euros pour son projet d'application. Et finalement, l'un des membres du jury lui a dit « Non, tu vas créer une chaîne YouTube. » Et on s'est attaché à Ashley. Aujourd'hui, elle avance. Elle nous a émus, elle nous a bouleversés, mais elle nous a donné envie aussi de lui faire confiance.
C'est factuel et il y a une évolution aussi. Il y a parfois même des pivots. Ça veut dire qu'un entrepreneur arrive avec une idée et on va la faire évoluer. Et ça montre que l'investisseur n'est pas là simplement pour apporter de l'argent, mais aussi une expertise, du conseil. Et du coup, les entrepreneurs vont avoir une épaule sur laquelle se reposer. Et c'est vraiment important parce que c'est vraiment quelque chose de solitaire, l'entrepreneuriat. Et pouvoir échanger, pouvoir faire un ping-pong d'idées avec quelqu'un qui a déjà vécu ces étapes, c'est à la fois rassurant, reposant. Et ça permet de sortir la tête du guidon et de regarder loin devant.
Merci beaucoup, Ashley Taïeb. On souhaite plein de bonheur et plein de force à MyID. Et le 23, la première formation. Voilà, la première formation de la plateforme. Anthony Bourbon, on va vous suivre tous les mercredis sur M6, en partenariat avec RTL dans Qui va être mon associé. C'est addictif, voilà, mais au bon sens du terme. Voilà, merci beaucoup Anthony, merci Ashley. Merci Anthony d'avoir partagé ce moment avec nous et pour tous les auditeurs de RTL. Qui va être mon associé, c'est tous les mercredis à 21h sur M6. Merci à vous deux. Ils sont à bout de souffle. 33 000 boulangers ont appelé à l'aide le président Emmanuel Macron. Des factures d'énergie qui sont multipliées par 3, par 5 et parfois même par 10 pour certains. Le président de la République a entendu ce cri. Corinne Butard est boulangère. Elle se confie dans Focus Dimanche. C'est dans quelques secondes.
13h, 14h.
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Il menace de mettre la clé sous la porte. 33 000 boulangères, boulangers étranglés par la hausse du montant de leur facture d'électricité, mais aussi la hausse du prix des matières premières. Illustration avec notre invitée dans Focus Dimanche, Corinne Butard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes boulangère, mais aussi propriétaire de 3 boulangeries en Seine-et-Marne. Et depuis quelques semaines, Corinne, c'est devenu trop difficile pour vous entre la hausse des matières premières et la hausse du prix de l'énergie.
Oui, c'est ça, tout à fait. C'est que là, on est asphyxié, que ça soit par les hausses des matières premières qui ont une envolée spectaculaire. L'énergie, pour ma part, je reçois mes avenants, on voit même pas. C'est atroce, quoi. Ce qu'on vit, c'est atroce.
Corinne, vous avez à charge 26 salariés. Oui. Dans votre entreprise, et depuis plusieurs semaines, à cause de la hausse du prix des matières premières et de l'énergie, vous avez dû licencier des salariés.
C'est ça. C'est que au départ, depuis plusieurs mois, à cause des matières premières, je n'ai plus de salaire. Là, maintenant, ça augmente encore. J'ai dû annoncer dès la nouvelle année que je me séparais de 4 de mes collaborateurs.
Comment ça s'est passé, cet échange avec vos collaboratrices et collaborateurs ?
Très mal. Faut savoir que je suis quand même assez humaine. J'ai pleuré avec eux. Parce que je trouve pas ça juste, je trouve ça tellement injuste. Ils ont toujours été là pour moi, dans les bons moments, dans les mauvais moments. Et là, je leur dis que à cause d'une facture d'électricité que je ne pourrais pas payer, je suis obligée de me séparer de 4 de mes collaborateurs pour l'instant.
Pour être très clair, Corinne, votre facture d'électricité, il y a quelques mois, elle était à combien ?
Elle était environ à 1600 euros par mois.
Ouais.
J'ai reçu mon avenant là, ça sera entre 15 et 16 000 euros. Donc je suis en négociation avec EDF pour essayer de baisser au maximum, puisque là pour l'instant les 4 vont partir, mais les autres malheureusement collaborateurs vont suivre aussi.
Attendez, on va être très clair pour toutes les auditrices et auditeurs de RTL et de Focus Dimanche. Vous êtes passé de 1600 à combien ?
À peu près entre 15 et 16 000 euros par mois.
Par boulangerie ?
Par boulangerie, oui.
C'est-à-dire que vous avez multiplié par 12, 13,
par 10. 10 c'est ça. Oui, par 10.
Mais, oui. Mais c'est incroyable parce que votre contrat avec votre énergéticien s'arrêtait au 31 décembre 2022.
C'est ça, oui. Donc moi, j'ai reçu mon avenant trop tard, puisqu'ils ne l'ont pas envoyé à la bonne adresse. Et tant que je réagisse, du coup, tout s'est enclenché.
Alors que d'autres boulangers avaient des contrats pluriannualisés, donc des contrats qui vont se terminer le 31 décembre 2023 ou 31 décembre 2024 et qui ne vont pas supporter la charge, cette différence que vous connaissez actuellement.
Alors moi, dans une de mes boulangeries, j'étais tranquille jusqu'au mois de juin 2023.
D'accord.
Et j'ai reçu quand même un avenant qu'à partir du mois de février, mes prix vont quand même exploser quand même.
pour, on va dire, lisser la charge que vous auriez à payer en juin 2023.
C'est ça.
Vous êtes chez quel énergéticien ? D'ailleurs, Corinne, je vous pose la question pour être très claire et pour être didactique auprès de nos auditeurs aujourd'hui.
Alors, je suis chez EDF.
Donc, c'est chez
pour
EDF.
Pour mes trois boutiques.
Oui. C'est chez EDF que vous avez une explosion de
oui,
votre
oui.
énergie et de votre
Tout
prix d'énergie. Corinne Butard, on va écouter le président de la République, Emmanuel Macron. Jeudi, c'était la traditionnelle galette à l'occasion de l'épiphanie. Et cette galette s'est transformée en vœu au boulanger. Une portée si symbolique, la baguette pour les Français. Quelques semaines après le passage de la baguette au patrimoine mondial de l'UNESCO, le président de la République s'est exprimé. Il a entendu le cri des boulangères et des boulangers.
J'en ai, comme vous, assez qu'on ait des gens qui, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. La crise, elle touche tout le monde. Mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc on va remettre un peu tout le monde d'équerre avec cette mesure et cet effort qu'on va demander.
Il a expliqué aussi, le président de la République, Emmanuel Macron, qu'il allait supporter une charge de 40% de la hausse du prix de l'énergie, en tout cas que l'État allait supporter ça, qu'un numéro allait être mis en place dans les préfectures pour que les boulangères et les boulangers puissent avoir quelqu'un au téléphone directement. Il a même fait cette boutade en expliquant qu'il avait essayé de le faire et que c'était imbattable. C'est suffisant, Corinne Butard ?
Alors non, c'est pas suffisant. 40% par rapport aux hausses, ça fait toujours pas grand-chose. Nous, ce qu'on a besoin, c'est du bouclier tarifaire. On a besoin vraiment, et puis d'avoir, de savoir comment ça va se passer pour les prochaines semaines. Parce que c'est bien de promettre des choses, mais on sait pas quand, on sait pas comment. Pour l'instant, les décrets ne sont pas passés. On a un guichet qui est à notre disposition. On le sait, on est au courant. Sauf que. Mais c'est quasi impossible de se connecter et de rentrer nos données. C'est le parcours du combattant. Donc, ils pensent qu'on n'est pas au courant parce qu'on ne remplit pas leur dossier. C'est qu'on ne sait pas le faire. Moi, j'ai mis mon comptable dessus. Mais c'est incompréhensible. Pour moi, c'est juste un bon début, mais ça suffira pas. On ne peut pas non plus supporter les autres 60%, en fait. En fait, c'est ça. C'est qu'on est déjà limite niveau trésorerie. Pour ma part, moi, je discute avec beaucoup de boulangers. Au niveau trésorerie, on est déjà au plancher complet parce qu'on a eu quand même la hausse des matières premières. On ne supportera pas non plus encore une hausse d'énergie. C'est pas possible.
Alors pour être aussi très précis, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette hausse des matières premières a changé aussi votre vie ? Comment elle a entraîné un bouleversement dans votre quotidien, dans vos boulangeries, dans vos trois boulangeries en Seine-et-Marne ?
Il faut savoir que la farine a pris à peu près 30%. Les œufs ont entre doublé et triplé, ça dépend le cours du jour, puisqu'on a là aussi la grippe aviaire. On a aussi le beurre qui a explosé, qui a pris 60%. C'est vrai que nos marges sont énormément réduites. Moi, j'estime que la première qui devait se restreindre, c'est moi. Donc, c'est vrai que je n'ai plus de salaire. Pour l'instant, j'ai encore la chance
d'avoir
mes parents.
C'est important, vous n'avez plus de salaire, Corinne. Vous avez
non,
trois boulangeries et vous n'avez plus de salaire.
Non, je n'ai plus de salaire depuis le mois d'avril. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir mes parents qui peuvent m'aider. Mes parents m'aident. Ils me payent mon crédit, ils me payent mes charges, ils me payent ma nourriture. Pour l'instant, mais ça peut pas durer non plus. Mais j'estimais que c'était à moi de me sacrifier en premier parce que c'était pas mes collaborateurs. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que tout flambe. Une partie font des profits et puis nous, on est obligé de subir tout ça et on peut rien faire en fait.
En fait, plus concrètement, vous êtes en colère surtout, j'imagine, comme la plupart des boulangers que j'ai rencontrés jeudi à l'Élysée, contre les énergéticiens. Je ne veux pas citer de marque, mais des gens qui ont déclaré des super profits exceptionnels, des gens, et c'est pour ça qu'on a inventé le terme de super profit après la guerre en Ukraine. C'est vers là aussi que votre message est envoyé, Corinne, comme la plupart des boulangères et boulangers, en leur disant il faut faire un effort, c'est maintenant qu'on a besoin de vous.
Bien sûr, c'est maintenant qu'on a besoin d'avoir des gens qui s'en mettent pas plein les poches. Comment l'État peut laisser faire ça? Je pense que j'espère que notre président.
Alors ce sont
enfin
des entreprises
compris.
Privées, c'est ça qui est aussi
c'est
le problème.
C'est ça, mais à un moment on l'a laissé faire aussi. Donc je pense que notre président l'a peut-être compris. J'espère qu'il l'a compris. J'espère qu'il va faire en sorte que c'est plus possible, qu'il réattribue aussi leur super profit pour nous aider, nous. C'est pas non plus à l'État de tout pouvoir payer, puisque l'État, c'est aussi les contribuables. Et je comprends pas ça normal qu'une poignée d'individus vont se faire sur de l'argent sur le malheur des gens. Je comprends pas.
Ça fait 25 ans que vous êtes propriétaire de boulangerie. Est-ce que vous vous êtes posé cette question depuis quelques semaines, depuis quelques mois, de vous dire, est-ce que je vais fermer ? Est-ce que je vais arrêter ?
Alors, j'en ai parlé cette semaine à mes collaborateurs, à mes boulangers, pâtissiers, vendeuses, que bah, pour moi, l'échéance, ça serait fin mars, début avril.
C'est-à-dire que fin mars, début avril, vous vous posez la question de mettre la clé sous la porte.
C'est ça, j'ai pas l'air insolite, je peux pas me permettre de reprendre des prêts. Des prêts, j'en ai suffisamment. Je peux pas me surendetter, c'est pas possible. À un moment, les prêts, faut que je les rembourse. Donc, je peux pas étaler mes charges puisqu'à un moment, il va falloir que je les paye aussi. Donc, je vais pas y laisser ma santé. Ma santé en a déjà pris énormément. J'ai eu beaucoup de soucis de santé à cause du stress et je peux pas continuer. Je ne peux pas leur promettre à mon personnel que quelque chose que je ne tiendrai pas.
Et Dominique Andracte, que j'ai croisé, le président de la Confédération nationale de la boulangerie, m'expliquait que les boulangers avaient besoin d'une hausse du prix de la baguette et que cette baguette devrait avoisiner les 1,10€, 1,15€. Vous y pensez, vous, dans votre petite commune de la Seine-et-Marne ?
Oui, on y pense. Moi, j'ai déjà augmenté au mois de novembre tous les produits d'à peu près 10, 20, 30 centimes, sauf la baguette, parce que pour moi, je n'ai pas envie que la baguette devienne un produit de luxe. Pour moi, c'est un produit de première nécessité. Tout le monde a le droit de manger une baguette tous les jours. Tout le monde devrait avoir les moyens de payer une baguette tous les jours. Mais 10, 20 centimes, c'est énorme. Pour certaines personnes, c'est énorme. C'est pas concevable.
Et d'ailleurs, votre plus grande crainte aussi, c'est la concurrence des hypermarchés. Il y a quelques semaines, Michel-Édouard Leclerc avait annoncé une baguette à 29 centimes. 29 centimes dans les supermarchés Leclerc. Là aussi, il y a un danger avec la situation, la présence des hypers.
Bien sûr, eux, ils ont le droit de vendre leur baguette à perte. On sait qu'ils le font puisqu'ils se rattrapent sur d'autres produits. Nous, on le fait pas. On n'a pas les moyens de le faire et je trouve que c'est vis-à-vis du consommateur, je trouve ça pas concevable. 29 centimes et on n'est pas suivi non plus là-dessus. Le prix du pain n'est pas réglementé en France. Donc chacun fait ce qu'il veut. Nous, on a des grandes surfaces qui sont à côté. À un moment, les gens vont moins cher.
Je vous ai posé la question concernant vos collaboratrices et vos collaborateurs dans vos trois boulangeries en Seine-et-Marne, Corinne Butard. Mais vous, comment vous vous sentez ?
Mal. Mal. Moi, je suis triste. Faut savoir que nos boulangeries, c'est notre capital déjà pour la retraite. On n'aura quasi pas de retraite, on le sait. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai pas envie de me dire, j'ai travaillé toute ma vie pour en arriver là. Mmh. C'est pas possible. Moi, je suis triste de voir mes vendeuses ou mes boulangers, mes pâtissiers qui ont des crédits, qui ont des enfants, qui ont des charges, leur dire je vous laisse tomber maintenant parce que j'ai pas le choix. C'est pas juste. Je trouve pas ça juste.
Elisabeth Borne, la première ministre Corinne Butard, a annoncé que les 33 000 boulangers et boulangères pourraient bénéficier de mesures de report ou d'étalement de paiement, de charges fiscales, de charges sociales. Ça va être mis en place dans les prochains jours, là, dès la semaine prochaine. Va falloir se renseigner pour vous, va falloir aller discuter avec la préfecture, va falloir aller discuter avec l'État. Ça va être une mise en place qui va être compliquée pour vous, complexe.
C'est très bien, sauf que les charges, à un moment, faut les payer. Il faut savoir que quand même beaucoup de boulangers finissent de payer leurs charges dues au Covid, puisqu'ils ont fait des reports de charges. Mais à un moment, les charges, on fait comment pour les payer ? Un report reste un report. Quand à un moment, j'alloue tous les mois tant de budget pour mes charges, comment voulez-vous que je repaye une autre partie que je n'ai toujours pas payée ? La trésorerie, on n'en a pas. Ça ira pas mieux dans un an, ça ira pas mieux dans deux ans, on s'en doute. Les matières premières flambent et vont continuer de flamber. Comment voulez-vous à un moment qu'on paye des choses qu'on ne peut pas ? On n'a pas les trésoreries pour reporter, avoir des prêts garantis par l'État pour avoir des prêts. C'est pas possible. À un moment, comment voulez-vous qu'on fasse pour rembourser des prêts ou des charges quand on n'a pas assez de rentrée d'argent ? Puisque faut savoir que si on augmente le pain, on aura forcément moins de rentrée d'argent, puisque les gens viendront sûrement, mais ils n'achèteront qu'une baguette, ils ne se feront plus plaisir avec ni de la viennoiserie ni de la pâtisserie. Donc on va baisser en chiffre d'affaires et il va falloir qu'on prenne encore des prêts ou qu'on reprenne nos charges qu'on n'a pas pu payer avant. Non, c'est pas possible.
Le 23 janvier, une mobilisation est lancée par le collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat. Vous serez dans la rue avec vos collègues ?
Bien sûr. C'est la première fois, j'ai jamais manifesté. Je sais pas trop comment pour l'instant ça s'organise très bien, mais jamais j'aurais pensé aller dans la rue pour manifester. Nous, on est quand même une corporation qui se tait, qui est derrière les caisses, qui sont dans leurs fournils. Jamais on a entendu parler nous. Si maintenant on le fait, c'est qu'on est au bord du gouffre quand même. Et j'espère qu'on va être nombreux. J'espère que les boulangers vont prendre conscience aussi que il faut pas qu'il y ait une poignée d'individus, mais que qu'il y ait le plus de monde possible. Je sais qu'on a d'autres corporations aussi qui veulent se joindre à nous, puisqu'on n'est pas les seuls, hein, malgré tout, on n'est pas les seuls dessus. Mais j'espère qu'on va être le plus nombreux possible. C'est vraiment triste d'en arriver là.
On rappelle quand même les annonces du président de la République Emmanuel Macron jeudi à l'occasion de la traditionnelle galette à l'Élysée. 40% des hausses de tarifs de l'énergie prises en charge par l'État, un guichet unique et un numéro dans chaque préfecture pour les boulangers afin d'avoir des réponses et un sévère coup de pression aux énergéticiens afin de baisser les prix de l'énergie en France. Merci beaucoup Corinne Butard.
Merci à vous.
Merci pour votre témoignage dans Focus Dimanche sur RTL. On espère que la situation va s'améliorer pour vous et vos collaboratrices et collaborateurs dans vos boulangeries en Seine-et-Marne. Merci à vous Corinne Butard.
Merci, on l'espère aussi. Merci à vous. Merci.
En 2023, en France, des enfants dorment dans la rue. À Paris, un collectif de parents d'élèves a décidé de trouver un toit à ces familles sans domicile fixe. Fatima est la maman de Lilou. Pendant plusieurs mois, elle a dormi au milieu des drogués près de la gare du Nord à Paris. Elle témoigne sur RTL.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Encore en 2023, en France, des enfants dorment dans la rue. À Paris, dans le 18e arrondissement, des parents d'élèves ont aidé une mère de famille à se loger. Elle témoigne aujourd'hui dans Focus Dimanche. Fatima, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré votre mari au Cameroun, un homme français. Vous avez vécu là-bas avec lui. Il est décédé en juin. À sa mort, vous avez décidé de faire découvrir la France à votre fille française. Elle s'appelle Lilou. Elle a 8 ans. C'est à Paris que vous arrivez en septembre. Et là, vous vivez l'enfer dans la rue pendant plusieurs mois. On va raconter votre histoire dans quelques secondes. Mais avant ça, avec nous par téléphone, Sarah Vezzoli, c'est l'une des nombreuses personnes qui vous a accompagnée. Bonjour Sarah Vezzoli.
Bonjour.
Sarah, vous êtes parent d'élèves et représentante du collectif Une école, un toit, Paris 18. Vous avez aidé Fatima à trouver un logement. Avant d'avoir votre sentiment sur la situation assez incroyable de Fatima, on va raconter votre histoire. Fatima, vous avez rejoint la France avec votre fille Lilou le 27 septembre 2022. Pour quelle raison ?
Pour la simple raison que ma fille est française, elle n'a que la nationalité française. Pourtant, donné que dans mon pays, il n'y a pas de double nationalité, ma fille est dans mon pays comme étrangère.
C'est quoi votre pays ?
Le Cameroun. Et son père avait souhaité, avant sa mort, qu'elle fasse ses études en France, parce que, qu'elle aille étant petite, parce qu'étant grande, ça serait très difficile pour elle. Parce qu'on a vécu dans mon pays pendant plus de 8 ans avec mon mari. Donc, il est décédé le 26 juin 2022. Donc, il souhaiterait que sa fille retourne dans son pays pour faire ses études. Voilà la raison de ma venue en France. J'ai voulu faire ce qu'il voulait, il avait souhaité. Donc, je suis arrivée en France le 27 septembre 2022.
Votre mari était français ?
Oui, il est français.
Vous l'imaginez comment, votre arrivée en France, votre vie en France ?
Bon, j'imaginais autrement, pas comme ça. J'imaginais avoir un toit, trouver un travail, donner la vie qu'il avait voulu à ma fille.
Pendant plus de 2 mois, vous venez de le dire, vous allez vivre dans la rue.
Ouais.
Gare du Nord, cage
ouais.
d'escalier, lieu insalubre,
ouais.
promiscuité, violence. Vous et votre fille, vous allez être confrontés à des situations difficiles, des gens qui se droguent devant vous.
Bah oui.
C'était quoi votre quotidien ?
Bon, le quotidien, c'est vous regarder des gens qui font du mal aux autres. Vous ne pouvez rien faire. Des gens qui se masturbent carrément devant des soleils, pour le mot.
Des gens qui se masturbent devant une mère de famille
oui.
et une fille de 8 ans.
Oui. Des drogueurs qui vous demandent, vous en voulez ou vous en voulez une cigarette, vous pouvez être avec nous, est-ce que vous voulez quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Ouais.
Votre fille Lilou est scolarisée à l'école de Cave dans le 18e. Elle va arriver dans l'école et elle ne va rien dire.
Oui, elle va rien dire. Elle venait de perdre son père, elle ne disait rien à personne. C'est le maître, son maître, qui s'est rendu compte qu'elle était trop fatiguée. Elle arrivait toujours en retard, qui a fait part de ça au directeur. Et le directeur en a fait part aux parents d'élèves. Sarah et d'autres parents, ainsi que la dame que vous voyez là, et ce sont eux qui ont réussi à m'aider.
Sarah Vezzoli, vous êtes maman d'élèves, vous êtes membre du collectif Une école, un toit, Paris 18. Quand vous découvrez l'histoire de Fatima, vous réagissez comment ?
Nous, on l'a appris dans le cadre d'un conseil d'école, comme ça, un peu par hasard. Et j'ai été absolument outrée de savoir qu'aujourd'hui, dans l'école de la République, des enfants pouvaient venir et dormir sur des cartons pendant la nuit. Savoir que mes enfants côtoyait des camarades à la rue. J'ai été absolument scandalisée. Et donc à partir de là, nous nous sommes vite mobilisés en découvrant complètement ce milieu-là, celui des travailleurs sociaux, celui de la question du logement d'urgence, qui ne sont à aucun des parents de notre école un milieu connu. Donc nous avons fait appel à des associations, à des fondations pour comprendre toute une problématique aussi de comment préserver la vie de ces enfants à l'école tout en les aidant sans que tout le monde soit au courant, qu'il n'y ait pas de raillerie dans la cour, que ces enfants vivent une vie d'enfant en fait, tout simplement. Et c'est ainsi que nous avons accompagné donc deux familles. Et très rapidement, en me rapprochant du directeur de l'école, puis d'autres écoles autour que je connaissais, j'ai appris qu'il y avait énormément de cas dans notre quartier. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de ce collectif, qui aujourd'hui réunit une quinzaine d'écoles sur le 18e arrondissement de Paris. Nous sommes sous la bannière de Jamais Sans Toi, qui est une association nationale, avec une trentaine de collectifs locaux partout en France.
Et on rappelle que le papa de Lilou, c'est important de le rappeler, c'est important de le signaler, était français et que Lilou est française. C'est très important de le dire pour que chaque auditeur, chaque auditrice comprenne la situation et le drame que certaines familles françaises vivent. Fin novembre, Fatima, vous allez être logée pendant 5 jours à Savigny-le-Temple.
Oui.
À 50 km de l'école de votre fille. Ça veut dire que chaque matin, chaque soir, vous deviez faire l'aller-retour en transport en commun.
Ah ouais, elle avait peur, elle se disait je vais pas retrouver des... Bon, parce qu'elle a réussi à tisser les liens avec son maître et d'autres camarades de classe. C'est la seule personne, c'est le seul endroit où elle s'y plaisait. Du coup, pour elle, c'était je vais plus les revoir, je vais aller ailleurs, voilà. Parce qu'elle fait des cauchemars toutes les nuits. Elle n'arrive pas encore à accepter le deuil de son papa. Mais moi, en tant qu'adulte, c'est difficile pour moi. Parce que c'était mon mari, c'est plus difficile pour elle, en tant qu'une petite fille qui a perdu son papa et se retrouve pour la première fois dans son pays, qui voit tout ça. C'est pas comme ça que son père lui parlait de son pays. Il a parlé plein de choses, c'est un beau pays, c'est un pays accueillant, c'est un pays... Du coup, c'est la première fois que ma fille met son pied dans son propre pays. Donc, voilà.
Sarah Vezzoli, les logements d'urgence ont été refusés à Fatima et sa fille. On lui a même répondu, il y a des situations plus urgentes que la vôtre. C'est-à-dire qu'il y a des situations plus urgentes qu'une femme à la rue avec un enfant de 8 ans.
Tout à fait. Et c'est surtout que cette réponse lui a été faite devant le juge des référés. Voilà, il faut comprendre que tout ce qu'a traversé Fatima au-delà de la rue, quand elle a eu le courage d'aller faire des démarches administratives difficiles sur lesquelles elle a été extrêmement perturbée. En face d'elle, l'avocat de la préfecture, droit dans les yeux, qui lui explique que en faisant la procédure qu'elle fait, elle va mettre à la rue d'autres enfants pour prendre la place, probablement des enfants qui sont en plus grande difficulté que sa fille, que finalement, elle a pas grand-chose pour se plaindre, qu'elle est en bonne santé, que sa fille est maintenant assez grande, parce qu'à 8 ans, apparemment, on est assez grand et qu'on peut vivre dans la rue, selon l'État. Il y a un ensemble de discours qui ont été tenus devant elle, qui ont été d'une brutalité. J'ai été très choquée, alors que ça ne me concernait pas directement. Et quand je l'entends dire, c'était pas ça l'image que j'avais de la France, ou en tout cas l'image que lui avait léguée son mari de la France, c'est exactement ça. C'est au-dessus de nos écoles, sur le fronton de nos écoles, il y a la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. À quel moment on l'applique? Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur des enfants scolarisés devant lesquels il n'y a aucune égalité et aucune fraternité.
Fatima, désormais, vous habitez dans un hôtel du 19e arrondissement.
Oui.
Comment ça se passe? Un hôtel d'urgence?
Oui, ça se passe mieux qu'au Savigny-le-Temple. Parce que là, on est prolongé déjà 3 fois.
Oui.
On est prolongé jusqu'au 1er février 2023.
Et vous n'êtes pas sûr que cette prolongation soit
efficace? Bah oui, vous aviez la boule au ventre quand des jours passent, puis vous ne saviez pas où vous allez partir, si vous seriez encore à nouveau dans la rue. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille si jamais on n'aura pas encore un lit pour se coucher? C'est difficile. Pour moi encore, je peux comprendre. Mais pour elle, c'est très difficile. Comment je vais l'annoncer ça?
Comment elle va, Lilou?
Elle fait beaucoup de cauchemars. Elle ne réalise pas qu'elle n'a plus son père parce qu'elle refuse du tout de parler de lui au passé.
Sarah Vezzoli, le 1er février, on ne sait pas si Fatima va garder son logement avec Lilou. La décision, vous le disiez, a été cassée par l'État. Le juge a ordonné l'hébergement d'urgence, mais la décision avait été cassée par l'État. Il y a une nouvelle bataille qui s'annonce. Vous envisagez avec Fatima, avec les autres mamans, avec votre collectif, un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est votre dernier espoir ?
Non, ce n'est pas le dernier, parce que je pense qu'il y a d'autres choses encore à faire bouger aujourd'hui.
D'accord.
En France, en interpellant directement les pouvoirs publics, en allant voir le ministère de l'Éducation, en allant voir la préfecture, on est face à une situation de crise qui est conjoncturelle pour beaucoup de facteurs. On a une chute drastique des hébergements d'urgence du fait des Jeux Olympiques, de la future Coupe du Monde de rugby qui se tiendra en Seine-Saint-Denis, où tous les hôtels sont en train de se faire rénover pour accueillir le public lié à ces événements sportifs. Mmh. Donc on a une chute ainsi des chambres, mais on a aussi un problème structurel. Quand on entend que dans certains hébergements dits d'urgence, on a des familles qui sont là depuis de plusieurs années, des familles qui parfois peuvent travailler à côté, on se dit qu'il y a une réelle lacune dans le suivi de ces familles.
En tout cas, j'espère aussi que Olivier Klein, le ministre du Logement et de la Ville, entendra votre message, Fatima, entendra le message de Sarah Vezzoli. Et quoi qu'il arrive, on essaiera de faire passer le passage que l'on vient de vivre en replay dans Focus Dimanche sur RTL pour essayer d'avoir une réponse et poursuivre votre dossier la semaine prochaine. J'espère que ça va se concrétiser pour vous, un logement rapidement, Fatima, pour que vous soyez heureuse. J'étais assez impressionné par votre courage, vraiment, et je suis assez admiratif.
Merci.
De votre courage et de votre force et l'amour que vous portez à votre fille.
Merci.
Merci à vous, Fatima. Merci beaucoup, Sarah Vezzoli. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche à toutes les deux et surtout que bientôt, vous aurez, j'espère vraiment, du fond de mon cœur, Fatima, un toit au-dessus de vous, un toit viable et stable. Merci à vous deux.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus. Dimanche.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Focus Dimanche sur RTL et je vous en remercie. Focus Dimanche, c'est votre émission, l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité de la semaine chaque dimanche à 13h sur RTL. Et n'oubliez pas, tous les jours, vous retrouvez Marion Calais dans le podcast Focus qui décrypte une information. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Gérard Jugnot. Il est l'invité de Bruno Guillon dans le Bon Dimanche Show.
RTL.